rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne.
Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, Aurore, Amy, Antoine et Anne, nous vous avons préparé une sélection d'œuvres très variées que l'on vous recommande. Il sera question de jeux avec Codex Naturalis, de romans avec Le Café Suspendu d'Amanda Sters, La Fille Parfaite de Nathalie Azoulay, Blackwater, la crue de Michael McDowell, La Félicité du Loup de Paolo Cognetti. On parlera aussi de manga avec l'Atelier des sorciers de Camome Shirahama, de BD Lokeke de Joël Gabriel Rodriguez et Jay Photos, et de Madeleine Résistante de Jean-David Morvan. Et Aurore nous fera un retour aussi sur le salon Les Imaginales. Et Antoine va commencer avec un jeu.
Alors oui, vous savez peut-être qu'on a eu, il y a une dizaine de jours, un festival qui s'appelle Arc en Jeu et qui était la première édition d'un festival de jeux de société à Compiègne et qu'on a eu beaucoup de plaisir à organiser avec plusieurs associations et plusieurs commerces compiégnois. Et on espère très fort faire une nouvelle édition l'an prochain. C'était un moment évidemment à la fois familial, amical, mais aussi où on apprend des jeux. Et il y a un jeu que j'ai découvert parmi d'autres dans ce festival qui s'appelle Codex Naturalis. En fait, c'est un jeu qui m'a été conseillé par Ariel François, notre élu à la culture. Et il a deux particularités pour moi. Le premier, c'est qu'il est extrêmement beau. Vous savez que les jeux de société qu'on édite aujourd'hui, parfois, c'est des vraies œuvres d'art. Et ce jeu-là, même si à certains moments, vous n'êtes pas forcément un grand amateur de jeux, si vous aimez les choses belles, eh ben, il faut au moins que vous essayiez ce jeu. Le mode de fonctionnement est assez simple. Vous avez quatre couleurs qui correspondent à quatre règnes. Le règne animal, le règne végétal, le règne fongique, les champignons, et le règne entomologique, les insectes. Et vous allez devoir composer un peu votre plateau pour gagner des points. Et c'est celui qui a le plus de points qui gagne à la fin de la partie. C'est un jeu, vous voyez, c'est assez simple. Il y a évidemment des règles un peu plus subtiles, mais c'est assez rapide à expliquer. En un quart d'heure, vous connaissez les règles. Et puis après, les parties ne sont pas extrêmement longues. Entre un quart d'heure et une demi-heure, ça peut se jouer à entre deux et quatre joueurs. Et ça a été conçu par un Français, Thomas Dupont, et un autre Français qui s'appelle Maxime Morin, qui a fait le graphisme. J'insiste parce que souvent, on parle des créateurs de jeux et on ne parle pas toujours de ceux qui font le dessin du jeu. Et je trouve que c'est une des grandes qualités des jeux français, d'être extrêmement beau. Là, c'est une entreprise de Quimper qui s'appelle Bombix qui a conçu ce jeu. Et je terminerai en disant que c'est un jeu qui convient bien. Alors, on l'a testé le week-end dernier, du coup, on le sait. Il convient bien à des familles avec des enfants d'âge différent. Vous savez que quand on joue avec ses enfants, c'est un peu compliqué quand il y en a un qui a 5 ans et l'autre qui a 9 ans, qu'il y en a un qui ne sait pas encore complètement lire, l'autre qui est déjà plus avancé. Ce jeu-là, on l'a testé et il peut fonctionner avec des enfants avec un certain écart d'âge, alors avec quand même des limites. Mais voilà, donc c'est une expérience esthétique, une expérience éventuellement familiale. Et puis voilà, c'est un beau jeu auquel vous pourrez jouer d'ailleurs à la bibliothèque Bellicard si vous venez aux soirées jeux de juin à Compiègne le mardi soir.
À partir de quel âge vous le conseillez ?
Oh, disons à partir de 5-6 ans. Ça dépend. En fait, c'est toujours pareil. Pour les jeux notamment, si les enfants ils ont un peu l'habitude de jouer depuis leur plus jeune âge, ils peuvent commencer assez tôt, même avant de savoir lire. Si ils sont un peu moins habitués, disons 6-7 ans.
Parfait.
Amy, vous allez nous parler du Café Suspendu.
Tout à fait. Alors, on va partir directement en Italie. Donc, attachez votre ceinture, car effectivement, on va débarquer donc tout de suite en Italie avec Amanda Sters, et qui, en fait, dans son histoire, elle raconte les péripéties en fait, de Jacques Madelin, qui est caricaturiste, qui se veut écrivain, mais qui a le cœur complètement brisé par le passé, mais qui vit désormais à Naples, au-dessus d'un café, le café Noubet. Alors, ce café a la particularité de proposer ce que l'on appelle les cafés suspendus. Je vous rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas le principe du café suspendu, c'est simple. C'est une tradition italienne du milieu du XXe siècle qui consiste à payer deux cafés, l'un pour soi et l'autre pour un client démuni ou dans le besoin. Et elle perdure toujours jusqu'à aujourd'hui, puisque la journée du café suspendu a été instaurée en Italie depuis 2011. Et cela ne fait que depuis quelques années seulement que la tradition a été importée en France. Alors, je suis partie à la rencontre de ce livre après m'être rendue justement donc à un café suspendu, ou en italien café sospeso. Donc l'idée est de recréer effectivement du lien social, d'apporter du réconfort et de permettre à des personnes souvent isolées de se retrouver parmi les autres et de partager un moment et une parole. Donc je vous invite même à chercher sur une carte ou un plan les cafés suspendus, car vous pourrez retrouver des initiatives locales à proximité de chez vous. Et à Compiègne, on retrouve des cafés suspendus, il y a même effectivement des baguettes suspendues ou même récemment des burgers suspendus pour l'anecdote. Mais revenons au roman. Donc il est écrit à la manière d'une commedia dell'arte, donc est construit comme un opéra. Donc vous avez une ouverture, des actes, des intermezzos. Et c'est un livre qui fait du bien et dans lequel les personnages sont très prononcés, très latins, mais tellement attachants. Et ce roman propose vraiment cette histoire, articulée par le lien avec le café Noubé, le narrateur et bien évidemment la ville de Naples. Puisqu'en effet, la ville de Naples est celle des rêves, des désirs et des préjugés également, des fascinations, mais elle n'est pas une ville ordinaire. Certes, aucune grande ville ne l'est, mais aucune pourtant ne suscite autant de passion dans ce roman, souvent contradictoire, volontiers excessive que celle-ci. Et j'ai particulièrement apprécié le personnage de Lucie, qui travaille dans une maison de retraite et qui est en recherche du sens de l'amour, le docteur Chen qui pose la question de l'exil, de trouver sa place dans la société. Et il y a également un chapitre qui s'intitule « La main de Dieu », où l'auteur raconte l'arrivée de Maradona à Naples et la fonction du destin. Et je vous souhaite donc alors, avec ce roman, une bonne dégustation accompagnée bien sûr d'un café suspendu.
Merci beaucoup, Amy.
Je passe la parole à Anne.
Alors, moi, je vais vous parler plutôt de littérature française, là, avec La fille parfaite de Nathalie Azoulay. Nathalie Azoulay, elle s'était fait connaître avec Titus n'aimait pas Bérénice, qui avait eu le prix Médicis en 2015. Mais là, c'est son 12e roman. Et c'est un roman passionnant sur l'amitié, loin des clichés sur l'amitié féminine. Rachel, la narratrice, nous raconte l'histoire d'Adèle. Elle se remémore les moments forts de leur amitié dans une narration proche du polar, avec des va-et-vient dans le passé et le présent, où la narratrice mène une enquête. Elle cherche à comprendre pourquoi son amie s'est suicidée par pendaison à 46 ans, alors que tout lui souriait, un mari, un enfant, une belle carrière. Et elle, qui aimait tant les réponses, laisse beaucoup de questions. Leur amitié s'est construite pas à pas, dès l'adolescence, mais elle était faite d'ellipses, de pauses, tout en étant fusionnelle. Ce parcours croisé des deux amies raconte la formation de deux personnalités, qui ont en commun de chercher l'excellence. Elles étaient des vraies athlètes de l'esprit. Ce livre aurait pu s'appeler « Ce que l'intelligence fait à la vie ». Et il y avait de la complicité et de l'affection dans leur amitié, mais il y avait aussi des complexes et de la rivalité. Adèle était prodigieusement brillante, avec un esprit mathématique puissant. Et la narratrice, elle, de son côté, était aussi douée, mais dans le domaine littéraire. Et c'est cette rencontre entre deux mondes qui les a conduites à développer une relation cérébrale, avec des débats très, très vivants. Pour Adèle, les mathématiques font avancer le monde, alors que pour Rachel, la vérité d'un raisonnement est moins importante que la beauté de l'art. La différence fait la grandeur du lien, mais surtout elles sont fascinées par leur complémentarité. Et elles se disent qu'à elles deux, elles détiennent le cerveau idéal. La fille parfaite du titre, c'est celle justement qui parviendrait à conjuguer tous les mondes, serait capable de naviguer d'un univers à l'autre. Et c'est le fantasme de saisir un monde, le monde par toutes ses facettes, de conquérir le savoir absolu. C'est un défi naïf, mais qui les pousse et les emmène très haut. Et elles se transmettent leur savoir avec comme des vases communicants. Et elles se vouent une admiration, qui est aussi liée à la famille, car elles ont chacune un déterminisme familial très fort. C'est d'ailleurs très intéressant de voir comme elles ont tendance à vouloir s'en détacher, tracer leur propre chemin. Mais cette envie de rébellion est plus de l'ordre de la curiosité et de l'admiration devant ce que l'on n'a pas, car l'auteur montre avec beaucoup de subtilité l'importance du socle solide auquel on s'attache et qu'on aime malgré tout, car nos goûts viennent de nos parents. J'ai trouvé passionnant aussi la façon dont Nathalie Azoulay traite de la relation père-fille, puisqu'Adèle a un lien très particulier avec son père, lui-même mathématicien et qui ne voit que par les mathématiques. C'est aussi un roman sur le poids de la famille, les injonctions familiales, ce qu'on inculque à ses enfants, et aussi sur la place de la femme dans la société et surtout dans le monde des sciences. Ce qu'il en faut de la ténacité pour s'y faire une place et du courage pour s'opposer au conditionnement qui voue la femme vers les sciences humaines et l'homme vers les sciences. C'est un roman original et subtil, pas toujours facile à lire, pour justement toutes ces analyses sur l'intelligence, mais que je conseille fortement pour ce qu'il suscite comme réflexion sur les trajectoires de vie et les personnalités. Maintenant, Aurore va nous faire un retour sur le salon où elle est allée ce week-end à Épinal.
Merci. Merci, Anne. Je ne m'entends pas.
Ah, il y a un problème de micro qui va te se régler.
Merci Anne, c'est bon, je m'entends, génial. Effectivement, j'étais au salon des Imaginales à Épinal le week-end dernier, donc c'était du 19 au 22 mai. C'est un salon qui a lieu tous les ans, exceptionnellement l'année dernière était au mois d'octobre, mais sinon c'est toujours dans les environs du mois de mai. C'est un salon sur la, c'est un festival sur la littérature de l'imaginaire. Donc c'était très très varié, il y avait à la fois énormément d'auteurs du coup présents, de maisons d'édition sur des thèmes comme la BD, où évidemment c'était bourré de SFFF, comme on dit, science-fiction, fantasy, fantastique. Il y avait aussi d'autres initiatives, notamment du body paint. Donc on a vu des gens un petit peu tout nus, mais habillés de leur maquillage corporel, se balader. Énormément de gens en cosplay également. Donc c'était très varié, très vivant. Il y avait une ambiance folle parce que la ville en fait prête un parc pour faire ce festival. Donc on avait tous un petit barnum pour présenter ce qu'on avait à présenter, souvent des livres, quelques boutiques aussi, bijoux, livres anciens, dans le thème médiéval. Et voilà, c'était très très sympa. J'ai rencontré énormément d'auteurs sur le salon, des auteurs dont j'ai déjà parlé à Rendez-vous Culture. Je pense à Raphaël Eviana avec ses Forêts de Dracula, son roman, son thriller journalistique. J'ai également eu une rencontre un peu plus impromptue dans le salon, dans les toilettes du salon, à vrai dire. Et j'ai rencontré une auteure montante en fait de la littérature de l'imaginaire francophone qui s'appelle Adé Martel, qui est très sympa également. Et d'avoir échangé comme ça de façon improbable, ça m'a donné envie d'aller un peu plus loin et je suis retournée la voir à son stand. Je lui ai pris son livre que je connaissais de nom et du coup que j'ai très hâte de lire, que je n'ai pas encore lu, qui s'appelle « De rouages et de sang ». On est plongé en fait dans un univers steampunk, donc il y avait quand même aussi pas mal de livres autour de cet univers aux Imaginales. On y découvre dans la ville d'Arcantras et plus ou moins dans ses bas-fonds une orpheline, Rowena, qui est passionnée de mécanique et qui croise le chemin de Eugène, qui est un journaliste qui se doit d'enquêter sur la disparition d'enfants dans ses bas-fonds. Et sur le coup, Rowena n'est pas du tout impliqué ou intéressé par le sujet, mais quand son meilleur ami se fait enlever, eh bien forcément, elle va y mettre son grain de sel. Voilà, donc « De rouages et de sang » de Adé Martel, une auteure que j'ai envie de vous conseiller simplement parce qu'elle était très avenante, très sympathique. Il y avait aussi beaucoup de monde qui faisait la queue à son stand. Et voilà, je pense que ça vaut le coup d'être lu. J'ai regardé les critiques aussi, elles sont très positives. Donc voilà, un peu plus de 4 sur 5 sur tous les sites que j'ai regardés.
Eh ben merci, ça donne envie d'aller découvrir ça.
Voilà, donc les Imaginales à Épinal tous les ans au mois de mai, si vous avez envie, ça vaut le coup d'ailleurs. En tout cas, ça dure 4 jours. Le samedi et le dimanche, c'est blindé. Et pourtant, le jeudi et le vendredi, il y a aussi pas mal d'animations sympas. Donc voilà, il ne faut pas hésiter.
Merci beaucoup Aurore. Pour notre pause musicale, nous vous proposons d'écouter le duo garage psychédélique The Liminas, qui s'est associé au pionnier de la scène électronique Laurent Garnier pour l'album De Pellicula, un disque qui raconte une véritable histoire, une odyssée noire et romantique, à travers 12 titres envoûtants et lancinants qui racontent en musique le road trip amoureux de deux voyous adolescents. On vous propose d'écouter le premier titre, Saul, qui met en scène le personnage principal, un jeune provincial pas très sociable qui trouve refuge dans les disques et le cinéma jusqu'à ce qu'il se noie dans les yeux de Juliette, l'amour de sa vie.
Mais il déteste ça. caravane des années 60. Elle a 18, 19 ans. Elle est jolie et douce.
Avant la pause, Aurore nous a parlé des imaginales et on va rester dans un domaine un peu fantastique et puis on reparlera de fantasy à la fin, je crois. Pour parler de Blackwater, Blackwater, c'est un roman de Michael McDowell et c'est le premier d'une série de 6 romans. Alors l'histoire, c'est une petite ville de l'Alabama en 1919 qui subit une crue de sa rivière, la rivière Perdido. Et deux hommes, en inspectant les dégâts dans une barque, il tombe sur une femme dans une chambre d'hôtel, au premier étage d'un hôtel. Il y a une femme qui est là, et puis qui apparemment est là depuis le début de la crue. Bon, on ne sait pas trop, elle est là depuis une petite semaine, apparemment sans manger ni boire, mais elle n'a pas l'air de voir le problème. Et du coup, il la ramène chez eux, et elle s'intègre à leur petite communauté. Et évidemment, elle va un peu perturber la communauté, mais pas très brutalement, on comprend pas très bien ce qu'elle cherche, ce qu'elle veut, elle devient institutrice, elle se marie aussi avec un des personnages, et je vous en dis pas plus parce que c'est un roman assez mystérieux et c'est un roman en plusieurs parties. Alors, c'est un roman qui en fait date de 1983, mais qui n'a été traduit en français que cette année et qui a été publié de la même manière qu'il avait été publié aux États-Unis, c'est-à-dire sous forme de série. Donc le premier, je crois, est sorti en mars dernier. Il y en a deux autres qui sont sortis en avril et en mai. Il en reste encore deux ou trois à paraître. Et donc le premier, qui s'appelle La Crue, va bientôt être disponible à la Bibliothèque Saint-Corneille, si vous voulez un peu découvrir ça. C'est un roman très efficace. Michael McDowell, il disait... alors en fait, c'est un assez grand écrivain américain qui n'est pas forcément connu parce qu'il a fait des scénarios de films. Notamment, c'est lui qui a fait le livre dont est tiré le film Beetlejuice de Tim Burton. Donc c'est un écrivain quand même assez connu, assez renommé, assez apprécié par la critique aux États-Unis, pas forcément le plus connu en France. Et il faut dire qu'il assumait d'être un bon écrivain, mais il s'estimait... un artisan, et puis il assumait le côté commercial. Il disait, voilà, moi je fais des livres dont je veux qu'ils plaisent, je veux qu'ils accrochent, je veux qu'ils passionnent le lecteur, et en fait c'est réussi. Parce que Blackwater, c'est une petite histoire, vous voyez, vous rentrez dedans, une petite communauté, et puis en fait vous pouvez plus vous arrêter. Et j'aime bien ce principe-là, qui est un peu le principe de la série télévisée aussi, appliqué au roman, avec justement des choses qui s'enchaînent. C'est très beau, hein, c'est des belles histoires, assez mystérieuses, assez agréables à lire, c'est tout un univers un peu... je ne sais pas comment dire, assez enthousiasmant, parce qu'il y a un rapport à la nature, il y a un rapport à l'eau, il y a quelque chose d'un tout petit peu mystique, un tout petit peu fantastique, mais en même temps, c'est de l'histoire de famille, c'est des rivalités, c'est de l'amour et de la haine, des choses assez basiques, mais très très bien exprimées, et c'est un peu mon coup de cœur du mois.
Merci beaucoup Antoine. Aurore, on va passer à la BD. Non, pardon, Amy.
Donc, je vais vous parler de la bande dessinée donc Lock and Key de Joe Hill. Donc, cette bande dessinée, elle est centrée sur la famille Locke, qui se retrouve déchirée après le meurtre brutal du père par un étudiant déséquilibré. Donc, ils emménagent tous dans la vieille demeure familiale. Mais quand une île s'appelle Lovecraft, la prudence est de mise. Alors, en effet, il s'agit d'un manoir hanté dont les portes peuvent transformer ceux qui osent les franchir. Et j'ai découvert cette bande dessinée à travers son adaptation donc sur Netflix. Donc on passe par tout un spectre d'émotions, donc la peur, l'angoisse, la surprise et la stupeur. Et je me suis aperçue que le comics est beaucoup plus adulte et violent que la série, par contre. Mais il reprend les thèmes permanents de la difficile résilience, des résurgences de l'enfance. Et on ressent la filiation littéraire de Stephen King grâce aux nombreuses références qui sont vraiment distillées au fur et à mesure de la bande dessinée. Donc l'accent est vraiment porté sur Carrie, par exemple, dans le tome 6. Et pas seulement, puisque Joe Hill n'est autre que le fils de Stephen King. Donc j'ai beaucoup apprécié le mélange d'étranges, de fantastiques, de fantasmagories aussi, de magie, la construction d'un récit à tiroir, mais également les nombreuses références à la saga de fantasy Le Monde de Narnia, donc de C.S. Lewis. Et si vous aimez cette bande dessinée, je vous conseille vivement également le roman historico-gothique en anglais, The Key in the Lock de Beth Underdown, que vous retrouverez à la bibliothèque Morichon. Je vous passe la parole.
Merci beaucoup. Alors moi, je vais retourner en Italie avec La Félicité du Loup de Paolo Cognetti. Lui, il s'était fait remarquer en 2017 avec Les Huit Montagnes, un magnifique roman, et qui lui avait valu le prix Médicis du roman étranger. Et comme dans ce dernier, il nous transporte à la montagne, dans un petit village d'altitude d'Italie, Fontana Fredda, une petite station des Alpes du Val d'Aoste. On y rencontre plusieurs personnages, et en premier lieu Fausto, un écrivain fraîchement séparé qui a fui la ville et changé de vie pour cuisiner dans un restaurant typique chez Babette. Il va se lier d'amitié avec la propriétaire du restaurant, Babette, et trouver l'amour avec la serveuse, Sylvia. On croise aussi Santorso, un dameur de piste. Et les autres personnages, ce sont les mélèzes, fragiles sous la tempête, mais fascinants à l'automne, et le glacier qui domine la vallée. Si le loup n'occupe pas la place centrale supposée par le titre, il traverse tout le livre. Son retour dans les Alpes tient pour l'auteur au fait que les hommes délaissent les hautes contrées. Il ne devient pas sédentaire pour autant, mais c'est un voyageur permanent qui fascine et tue et exerce une attraction puissante. C'est un roman surprenant, d'abord par son découpage. 36 petits chapitres, sans grandes péripéties, avec une intrigue minimale. Les dialogues même relèvent du registre de la quotidienneté. Et pourtant, il y a une subtilité et une profondeur très intense dans ce roman. Et c'est poétique. L'auteur nous fait ressentir intimement ce qu'est la vie en montagne. Il sait créer les ambiances, celles de la montagne, et des grands espaces somptueux, et sa rudesse. Les descriptions de la nature sauvage m'ont captivé. C'est contemplatif, mélancolique. Et il exprime un art de vivre au jour le jour, dans un espace où les habitants sont solitaires et pourtant solidaires. Ce qui en fait un livre d'une incroyable humanité. L'écriture est impressionnante, de sobriété, de dépouillement, sans effet de style. C'est sublime, un pur plaisir de lecture.
Le rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne.
Alors, je vais vous parler, on va rester un peu dans la thématique fantastique. Je m'aperçois qu'aujourd'hui, on a plusieurs livres et plusieurs choses qui sont dans cette thématique-là, en vous parlant de L'Atelier des sorciers, qui est un manga que j'ai découvert en cherchant à offrir des mangas à un de mes neveux, qui aime bien toutes les histoires de sorcellerie, etc. J'avais prévu de le lire juste comme ça, de jeter un coup d'œil pour l'acheter pour lui, et puis finalement je me suis laissé happer et j'en suis au sixième tome. Donc c'est l'histoire d'une petite fille qui vit dans un monde où les sorciers et les non-sorciers sont assez séparés. Elle vit juste avec sa mère dans une maison. Et les sorciers et les sorcières ont pour mission d'aider les gens, de résoudre des problèmes, etc. Mais c'est une caste quand même assez fermée, assez mystérieuse. Et puis un jour, elle découvre par hasard que, en fait, elle a des pouvoirs magiques, elle a la capacité de faire de la magie. Et elle le découvre de manière un peu accidentelle, puisqu'elle fige sa mère. Et du coup, elle va se mettre à pratiquer la magie pour essayer d'inverser son sort et de sauver sa mère. Alors, vous voyez, c'est une histoire qui répond quand même largement au code du manga. Un héros qui est plongé dans un univers magique, où il doit faire ses preuves, il doit se dépasser, il doit remporter des épreuves grâce aux amis qu'il se fait sur le chemin. Ses amis, ils sont assez différents. Au début, ça clash un peu. Il y a des différences un peu problématiques. Et puis finalement, c'est des complémentarités. Enfin, vous voyez, c'est une structure assez traditionnelle. Mais il y a une vraie originalité. Déjà, c'est extrêmement bien dessiné, c'est très beau. Et justement, le dessin est un peu au cœur de l'histoire, puisque dans cet univers, la magie est liée au dessin. Pour déclencher un sort, il faut dessiner un certain nombre de symboles dans un certain ordre, sur une certaine position, dessiner un cercle autour, et quand vous finissez le cercle, le sort se déclenche. Ce qui, évidemment, autour de ça, il y a toute une mythologie, tout un univers qui prend corps. Et c'est très agréable à lire, c'est très beau, c'est une expérience esthétique et littéraire en même temps. Et ça peut être lu par des enfants à partir de, disons, 7-8 ans, mais aussi par des adultes avec plaisir. Voilà, c'est l'Atelier des sorciers et c'est écrit par Kamome Shirahama.
Merci Antoine. Je vais revenir à la littérature, avec Celui qui veille de Louise Erdrich. Louise Erdrich est une des figures de la littérature amérindienne contemporaine. Elle a eu le prix Pulitzer de la fiction 2021. Elle s'inspire de son histoire familiale et entreprend dans son œuvre d'honorer la mémoire de ses ancêtres de la réserve de Turtle Mountains, dans l'État américain du Dakota du Nord. Là, dans Celui qui veille, c'est précisément un hommage à son grand-père maternel, Patrick Gournou, qui a lutté pour préserver les droits des Amérindiens. C'est de lui dont elle s'inspire pour créer le personnage principal, Thomas. Il est veilleur de nuit dans une usine de pierre d'horlogerie, dans la réserve des Indiens Chippewa. On est en 1953 et Thomas apprend que le Congrès des États-Unis a voté la résolution 108, cette loi qui revient sur les accords anciens conclus avec les tribus indiennes, en mettant fin aux aides fédérales et en appelant chaque Indien à devenir un citoyen américain. Ce projet du gouvernement fédéral censé émanciper les Indiens est en réalité une menace pour les Indiens. Et ça aurait pour conséquence l'assimilation par la force, la disparition de l'identité amérindienne et l'expulsion de leurs terres. Thomas va tout faire pour faire abandonner cette résolution. Il va monter une délégation pour plaider la cause de son peuple à Washington. À ce thème principal, Louise Erdrich ajoute une trame romanesque et elle construit un roman choral avec de nombreux personnages intéressants et attachants. Un entraîneur de boxe, un jeune boxeur passionné de chevaux et surtout Pixie, ou appelée Patrice, la nièce de Thomas, une jeune fille de 19 ans qui travaille également dans l'usine pour nourrir sa mère et son petit frère, son père alcoolique étant juste bon à leur soudoyer de l'argent et à les violenter. Patrice s'inquiète pour sa sœur qui est partie tenter sa chance à Minneapolis mais ne donne plus de nouvelles. Elle part donc à sa recherche et on va suivre ses aventures assez pittoresques. Lire ce roman, c'est vraiment s'immerger dans la vie quotidienne de cette réserve, une communauté solidaire qui fait passer l'intérêt commun avant tout, malgré les difficultés et les ravages causés par l'alcool. On découvre cette tribu soudée qui s'interroge sur ses racines et cultive ses traditions ancestrales, ses croyances. C'est très empreint de mysticisme, mais tout en s'ouvrant au monde moderne. C'est un monde rude qui survit comme il peut, mais un monde très beau. Louise Erdrich a une plume limpide et tendre, et elle nous offre un roman envoûtant et surtout une formidable évasion culturelle. On va reparler BD avec Amy, qui va nous parler de Madeleine Résistante.
Alors, je vais vous parler effectivement de la Madeleine Résistante, dans ce tome 1, qui s'intitule « La rose dégoupillée ». Et qui retrace la vie de Madeleine Riffaut, engagée dans la Résistance à seulement 17 ans. C'est le premier tome d'une trilogie qui raconte avec détail l'héroïsme de la jeune femme et les atrocités qu'elle a subies. Le scénario est signé Jean-David Morvan, qu'on a eu d'ailleurs l'occasion de recevoir donc à la Bibliothèque Saint-Corneille cette année. Et les dessins sont de la main de Dominique Bertaille. Alors, cette bande dessinée a été récompensée très récemment par le prix Goscinny des meilleurs scénaristes de l'année. En 1994, Raymond Aubrac convainc donc Madeleine Riffaut de parler de son engagement pour tous les fusillés, les déportés, pour qu'on ne les oublie pas. Et Madeleine Riffaud donc devient alors passeuse de mémoire dans les écoles, en livres, dont notamment son livre d'entretien « On l'appelait Rainer », donc aux éditions Julliard, et en documentaire, dans de nombreux établissements scolaires, en exposition et maintenant donc en bande dessinée. Et l'œuvre nous plonge immédiatement dans la campagne amiénoise en 1931. Madeleine a alors 6 ans et elle va vivre un premier drame puisqu'elle va mourir 3 de ses camarades d'école tués par un obus de la Première Guerre mondiale. Elle n'est alors qu'une enfant et pourtant ce jour-là, elle échappe pour la première fois à la mort puisque quelques secondes avant, elle était encore avec ses amis. Et pour écrire le scénario de la bande dessinée, l'auteur, donc Jean-David Morvan, a enregistré des centaines d'heures de conversations. Et Madeleine Riffaud a tout raconté, ne passant aucun détail sous silence, même les plus terribles. Les deux bédéastes vont raconter ensuite dans le tome 2 toute la suite de la vie de Madeleine Riffaud, donc les guerres d'Indochine, d'Algérie ou du Vietnam, qu'elle a couvert comme journaliste, ou encore ses rencontres avec Picasso et l'homme d'État vietnamien Ho Chi Minh. Et ce que je trouve également très intéressant, et encore une fois dans la volonté de transmission, c'est que c'est une bande dessinée qui s'accompagne de fiches pédagogiques que l'on retrouve sur le site de l'éditeur. Donc c'est un outil idéal pour aborder différentes thématiques en classe, donc la Première et la Seconde Guerre mondiale, la Résistance, l'Occupation. Et dans cette optique, il y a donc effectivement un corpus de fiches d'activités pédagogiques qui sont en libre accès, du primaire au lycée. Et c'est vraiment un outil qui peut être utilisé seul ou en complément de l'étude de la bande dessinée. Donc voilà, c'était vraiment une bande dessinée complète.
Merci Amy pour ce très bon conseil de lecture. Nous arrivons au terme de cette émission. Il est temps de vous annoncer ou de vous rappeler nos prochains événements. Demain, samedi 28 mai, nous parlerons de fantaisie avec une rencontre dédicace d'une auteure de fantaisie young adulte, Aurore Jebleu, que nous avons d'ailleurs la chance d'avoir dans le studio avec nous. Elle Merci. Nous parlera de son œuvre, notamment de sa saga L'Onéida. C'est à 15h30 à la bibliothèque 5 en Aigne. Venez nombreux, que vous l'ayez lu ou pas, vous pourrez découvrir ces romans qui sont vraiment très intéressants et très riches. Moi, je suis dedans et j'aime beaucoup, c'est addictif.
Oui, on en parlera et puis on aura l'occasion de... Les participants ont l'occasion de poser des questions, ce sera sympa.
Ouais. Venez nombreux. Les 11 et 12 juin, le salon littéraire Books Feel Good, un salon qui met à l'honneur les livres qui font du bien, des romans, des ouvrages de développement personnel. On parlera de sport santé, de médecine douce, avec un grand nombre d'auteurs qui viendront animer des tables rondes, des ateliers. La première édition était très réussie, alors venez aussi nombreux pour cette seconde édition qu'il sera tout autant. Cet été, les bibliothèques de Compiègne mettent en place la RFID, avec l'installation de bornes en libre service qui vous permet plus d'autonomie pour vos emprunts. Cette modernisation nous permettra de mieux vous accueillir en étant pleinement disponible pour vous informer et vous conseiller. Seulement des travaux seront nécessaires pour rénover nos espaces d'accueil des bibliothèques Saint-Corneille et Mourichon. C'est pourquoi nous serons contraints de fermer les bibliothèques en juillet et en août. Nous vous tiendrons informés des dates exactes de fermeture très prochainement. Mais avant, nous vous retrouvons pour nos prochains rendez-vous culture dans le cloître le vendredi 17 juin à 18h, sur Graphite le vendredi 24 juin à 18h également, et en prime à rendez-vous série le vendredi 1er juillet à 18h également. Bonne soirée à tous.
Merci Anne. Merci Amy. Merci Antoine.